Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Treizième émission de Feuilles Vives avec un sujet de fond. Aujourd'hui, la déprise agricole en Sologne. Région d'élevage aux terres pauvres, dans son histoire récente, la Sologne a vu sa surface cultivée reculer au profit de forêts privées dédiées à la chasse au grand gibier. Familles Bic, Bolloré, Bouygues, Dassault, Sédoux, les plus grandes fortunes de France ont leur propriété de plusieurs centaines d'hectares en Sologne et cherchent à les agrandir à tout prix, aux dépens de repreneurs plus bénéfiques à la vie économique du territoire. Cette vocation quasi exclusivement forestière et cynégétique de la Sologne, bien ancrée dans les esprits, est en fait un phénomène récent. Bertrand Sajaloli est géographe à l'Université d'Orléans. Il analyse les interactions entre propriété foncière et occupation du sol en Sologne. Comme tout au long de cette émission, cette interview est illustrée par les extraits d'un reportage diffusé par France 3 en 2010.
C'est une forêt qui est extrêmement récente, c'est-à-dire que le boisement massif de la forêt est intervenu en gros durant ces 20 ou 30 dernières années, et donc on a une forêt qui est privée, qui est appropriée, et qui connaît des modes d'appropriation qui sont relativement forts, puisque l'autre caractéristique de cette appropriation, c'est de présenter des propriétés qui sont plutôt grandes, voire très grandes. Donc une appropriation par la très très grande propriété, et dernier élément, une grande propriété qui tend de plus en plus à être une propriété qui est liée à la grande finance nationale, au grand capitaine d'industrie, c'est-à-dire à des propriétaires qui sont absents, ou qui n'investissent pas dans leur propriété, mais qui ne font pas directement partie des réseaux soloniaux.
D'accord.
On rajoute à cela une tentation, notamment chez ces grands, très grands propriétaires, une tentation de s'enclore, c'est-à-dire de placer autour de leur propriété des grillages enterrés de 50 cm profondeur, de plus de 2,20 m, ceux de manière continue autour de leur propriété, et afin de pouvoir déroger à la loi chasse, c'est-à-dire de chasser toute l'année à l'intérieur de leur propriété, et aussi afin que personne ne vienne, finalement.
Pour comprendre la Sologne, il faut en fait l'observer vue du ciel. On découvre alors une zone boisée de 500 000 hectares où 95% de la population se concentre sur 5% du territoire. Le reste appartient aux grands propriétaires privés, comme la famille Bouygues qui possède deux domaines, l'un à La Ferté-Saint-Aubin, l'autre à Vannes-sur-Cosson. Pas très loin de chez eux, on trouve le créateur des assurances AXA, Claude Bébéard. La famille Sédoux, propriétaire des cinémas Pathé, est installée à Saint-Viatre, l'industriel Olivier Dassault à Salbris, le patron des sucres Béguincé à Pierrefitte-sur-Sauldre. Côté politique, l'ex-ministre Michel Barnier réside à La Ferté-Saint-Aubin, la famille de Valéry Giscard d'Estaing à Salbris, et Christophe de Chavannes, lui, chasse à Neuvy-sur-Barangeon.
Petit à petit, la vocation agricole, l'équilibre qui, jusqu'aux années 50, avait existé avec, en gros, un tiers de terres cultivées de près, un tiers d'étangs et un tiers de forêts, ce qu'on appelle l'équilibre agro-sylvo-cynégétique de la Sologne, cet équilibre a été rompu avec l'effacement de la dimension agricole. Il y a eu une espèce de maintien, une survivance jusqu'aux années 70, et depuis les années 80, par contre, il y a un écroulement, et il finit par y avoir beaucoup de villages qui n'ont plus d'agriculteurs. Dans la mesure où il y a une crise de l'agriculture, dans la mesure où de grands propriétaires, souvent étrangers à la région, se constituent des domaines fonciers important, ben, le lien avec tout ça, c'est la chasse. Et en particulier, la chasse au grand gibier. Donc, les ongulés en particulier, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. Et cette chasse au grand gibier, elle s'effectue dans un cadre forestier. Hein, donc, vous voyez, il y a une espèce d'accointance entre le déclin de l'agriculture, le renforcement de la grande propriété à des fins de loisirs et une activité dominante qui est la chasse au grand gibier.
Alors, est-ce que c'est l'enfrichement qui provoque cette prolifération du grand gibier, ou alors est-ce que c'est cette volonté de chasser du grand gibier qui provoque l'enfrichement des terres?
L'agriculture est en crise, ce qui fait que donc du coup les revenus des propriétaires qui étaient des revenus agricoles n'ont pas été suffisants. Parce que comme le foncier appartenait de toute façon à des grands propriétaires privés, qu'ils soient solonniers ou pas solonniers, ben, ces grands propriétaires ont été, pour des raisons économiques, obligés d'arrêter l'agriculture et n'avaient plus les moyens d'entretenir des métayers ou des fermiers. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans un temps de crise? Ben, finalement, sur un plan naturel, les terres qui avaient abandonné se sont enfrichées, et se sont enfrichées extrêmement vite. Hein. En 10 ans, un champ qui a été abandonné est recouvert par des fructicées, hein, par des arbustes, des feuilles, des bouleaux, des fusains, de l'épinette noire, hein, et devient un entrelac végétal extrêmement... extrêmement dense, touffu, impénétrable, et constitue un repère formidable, hein, pour le grand gibier, notamment pour le sanglier. Hein, donc, il y a un mouvement d'abandon des terres, hein, qui conduit à l'enfrichement et au boisement, et ce mouvement a été suivi, accompagné, et a incité les grands propriétaires à se tourner vers le grand gibier. Effectivement, le peu d'agriculteurs qui restent travaillent aujourd'hui dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles qu'avant. Pas de réseau d'entraide, une pression des grands gibiers, du grand gibier qui est beaucoup plus forte sur les cultures. Je ne sais pas si on peut dire que ce sont des rescapés ou des survivants, mais c'est vrai qu'être agriculteur aujourd'hui en Sologne est infiniment plus difficile, hein, que ce que ça a pu être il y a une trentaine d'années.
À l'heure actuelle, j'ai une centaine d'hectares en location.
Jean-Marc Vallet, l'un des quatre derniers agriculteurs encore présents sur la commune de Lailly-en-Val dans le Loiret, à mi-chemin entre Blois et Orléans.
Donc en élevage uniquement, puisqu'on est en la partie Sologne, et puis donc élevage vache allaitante, et puis un peu de poules pondeuses en bio, puisque toute la ferme est en bio depuis une douzaine d'années. Je fais de la vente directe pour la viande et puis les œufs. C'est ce qui d'ailleurs me permet de rester paysan, parce que sinon, j'aurais pas résisté. Et puis je sais pas, je fais le tour.
Résister à quoi?
Résister aux conditions économiques, puisqu'on est la Sologne, c'est quand même une zone difficile. Et puis en circuit long, ben les cours, c'est une catastrophe depuis longtemps. Donc, effectivement, dans cette région-là, j'avais pas trop le choix. Et passer en bio et passer à la vente directe pour arriver à résister et donc vivre décemment. Les sangliers arrivent au stade pâteux, donc quelques semaines avant la moisson. Et là, 10-12 sangliers, ils vous ravagent un champ, c'est vite fait. Et moi, les cervidés, je les ai en permanence, ils sont du semis à la récolte. Hein. Et mais ça, c'est... Alors, sur les céréales, c'est réglé. C'est entre... moi, les moins mauvaises années, c'est 50% de dégâts. Et puis, les plus mauvaises, je ne récolte rien. Et ça, depuis que je suis paysan ici. Et puis, après, il y a aussi beaucoup de dégâts sur les prairies. Donc, les sangliers, ils retournent tout. Donc, c'est à la fois des conditions de travail lamentables pour faire du foin. Et puis de toute façon, ce qui est détruit, il n'y a plus d'herbe. Et puis, les cervidés... Les cervidés qui sont en pâture, moi j'ai depuis... Enfin, les premières années, c'était encore pire. Hein. On avait 80 cerfs sur la ferme toutes les nuits. Hein. Et on s'est fâché. Ça m'a coûté un passage au tribunal correctionnel avec ça. Mais donc, on a beaucoup moins. Moi, j'ai 25 à 30 cerfs en permanence avec les vaches ou dans mes luzernes. Mais un cerf, ça bouffe et ça bousille comme une vache. Hein. Donc, du coup, bah, c'est toujours ça qu'on n'a pas comme nourriture quand on a tout ça sur la ferme. Et ça, c'est un fléau. Ça, c'est même la ruine dans ces zones-là, c'est la ruine pour les paysans.
D'accord, mais ça veut dire qu'il y a une coopération possible entre l'agriculture et la chasse sur ces territoires-là?
Oui, ouais, mais la coopération n'existe pas, c'est même l'inverse, ça ne cohabite pas, puisque les chasseurs n'en ont jamais assez. Hein. C'est toujours une gestion à la hausse. Hein. S'ils ne voient pas des troupeaux de sangliers partout et des troupeaux de cervidés, ils ne sont pas contents. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas les populations, ce n'est pas une fatalité. Hein. Il y a bien des régions, les cervidés, ici, il y a 35 ans, il n'y en avait quasiment pas. Hein. Il y en a un qui passait de temps en temps. Les sangliers, il y en a toujours eu un petit peu. Maintenant, il y en a beaucoup. Mais c'est une volonté délibérée des chasseurs de laisser exploser les populations. Hein. Parce que plus il y a de gibier, plus ça fait monter les locations de territoire, plus ça fait monter le prix des actions. Hein.
D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce système d'actions? Pourquoi est-ce qu'un propriétaire d'un territoire de chasse, il a des actionnaires?
Y en a qui ont des actionnaires pour gagner de l'argent, parce qu'il y a des actions, enfin, il y a des prix d'actions, là, qu'on entend parler, là, moi, juste à côté de chez moi, c'est 3000 euros l'action, pour venir à la chasse 7-8 fois dans l'année, donc, multiplié par, je ne sais même pas combien il y a d'actionnaires, mais on peut vite se rendre compte que, ça fait un peu de fric, hein. Donc, c'est ça, là, il y en a certains, c'est de faire du fric hein, aussi. Hein. Plus il y a d'actionnaires, plus il y a de pognon qui rentre. Hein.
Mesdames, messieurs, bienvenue au domaine du Chili. On va faire une chasse entre amis.
Didier de Gauchy vient chasser dans ce domaine avec ses amis environ deux fois par an. Ce directeur d'une entreprise de bâtiments installée dans l'Oise, près de Compiègne, a réussi à économiser suffisamment d'argent pour s'offrir, il y a 8 ans, le rêve de sa vie. Une belle propriété de 70 hectares à La Ferté-Saint-Aubin.
C'est un petit peu un rêve d'enfant. Hein. La Sologne, la chasse, c'était un rêve que j'ai accompli quoi, en fin de vie de travail.
Ça fait longtemps que vous y pensiez ?
Ah oui, c'était, oui, bon, je n'osais pas trop y penser, et puis j'ai cherché pendant au moins 5 ans, en venant des week-ends complets, en visitant des propriétés, et puis celle-ci, c'est la première que j'ai vue.
Cherche, garçon, cherche. 200. 200.
Attention, Bernard, calme, là, il va se battre, parce qu'il va se battre.
C'est bien, mon chien. Allez, assis. Assis maintenant, et on ne bouge pas. C'est bien, mon lapin. Il est gentil, ce chien. Oh, il est gentil. Ah, mon garçon, oui, mon garçon. Laisse-le. Il est très gentil.
Pour ceux qui la possèdent, la Sologne est aujourd'hui un vaste terrain de jeu. Un terrain de jeu qui coûte cher. Selon les notaires, en moyenne, un beau domaine, plus grand que celui-ci, se négocie entre 2 et 5 millions d'euros. Le jour où nous avons suivi cette chasse, le gibier n'était pas vraiment au rendez-vous. La seule prise réalisée a été ce jeune cerf. Avec un domaine encore plus vaste, le bilan aurait été meilleur. Et c'est justement le but de Didier de Gauchy qui souhaite s'agrandir, comme beaucoup de grands propriétaires soloniaux.
Si je pouvais grappillonner un petit peu, et que mes moyens me le permettent, je pense que j'aimerais bien acquérir quelques hectares en plus.
Au fil des départs à la retraite, Jean-Marc Vallet est persuadé que les prairies et les terres cultivées auront disparu de sa commune d'ici 10 ans, remplacées par des forêts privées. Une fermeture des paysages qui contribue à la perte de biodiversité, d'attractivité et à l'isolement de ces territoires ruraux, mais qui bénéficie largement aux propriétaires. Louer ses terres à un agriculteur rapporte une misère comparée à ce que sont prêts à débourser une poignée de touristes fortunés pour tirer le cerf quelques jours par an. Face à cet écart de revenus, on pourrait penser que tous les propriétaires s'empresseraient de virer leurs paysans à l'échéance de leur bail pour disposer de leurs terres comme ils le désirent. C'est là qu'intervient le statut du fermage, un bail agricole à long terme, très protecteur pour l'agriculteur locataire. Un premier bail de 18 ans qui se renouvelle ensuite automatiquement tous les 9 ans. Le propriétaire ne peut empêcher le renouvellement du bail que dans certains cas très précis. 1. Si l'agriculteur laisse les terres sans fricher. 2. S'il ne verse pas le loyer 2 années consécutives. Ou 3. Si le propriétaire lui-même, ses enfants ou ses petits-enfants veulent démarrer une activité agricole. le statut du fermage est adopté au lendemain de la libération. Assurés de pouvoir mener l'intégralité de leur carrière sur les mêmes terres, les agriculteurs locataires peuvent désormais investir, moderniser leur exploitation et même la transmettre à leur descendance sans risquer d'être chassés à l'échéance de leur bail. Mais pas de quoi décourager certains propriétaires, et notamment celui de Jean-Marc Vallée. L'éleveur sort en effet de 4 procès consécutifs, soit 11 ans de procédures abusives. Le propriétaire n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Moi, je me suis installé il y a 23 ans, mais en cours de bail à long terme, mes anciens propriétaires ont vendu. Et donc, justement, un des propriétaires qui a acheté presque 60 hectares que j'ai en location, c'est la seule raison pour laquelle il a voulu essayer de me virer. C'est pour être libre de laisser tout en friche pour attirer le grand gibier, donc pour la chasse. Il l'a acheté bon marché, parce que moi, quand ça a été vendu, bon, je ne pouvais en aucun cas acheter. Mais vendu des terres ici à vendre avec un locataire, avec un bail à long terme, moi, ça a été vendu 2 200 € de l'hectare. Et quand c'est libre, c'est entre 10 et 15 000 euros. Donc là, lui, il a été au culot, il a acheté avec un locataire et il l'a acheté très peu cher par rapport à ce que ça serait vendu si c'était libre. Puis après, effectivement, la méthode, c'était se dire, je vais lui pourrir la vie à mon locataire, il va foutre le camp.
D'accord, c'est une forme de spéculation sur votre départ. Ouais.
Tout à fait. Parce qu'il est à 10 ou 15 000 euros l'hectare, je sais qu'il n'aurait jamais pu acheter. Donc, du coup, après, tous les coups sont permis quand on veut virer quelqu'un. Mais bon, heureusement, il y a le statut du fermage qui nous protège. Quand on veut virer quelqu'un, toutes les raisons sont bonnes. Il a commencé par me reprocher l'entretien des fossés, l'entretien des haies. Alors, là-dessus, il n'était pas une incohérence près, une malhonnêteté près. Il y avait des haies que j'entretenais trop, parce que j'avais coupé pour les remettre en état. Puis il y en a d'autres, à ses yeux, je n'entretenais pas du tout. Les fossés, je les entretenais pas, alors que j'avais un état des lieux de départ. Et puis les terres pour à ses yeux n'étaient pas entretenues, elles étaient en partie en friche. Enfin, tous les arguments possibles et imaginables sont permis dans ce genre de truc. Et comme sa volonté c'était de me virer, donc après il a choisi toutes les étapes. Il y a eu d'abord un conciliateur de justice, mais où il n'y avait pas de conciliation possible, parce qu'il n'était pas question que je m'en aille. Et il était en aucun cas question que j'accepte de discuter sur ce qui n'existait pas. Et puis, donc au fur et à mesure, après, c'était la conciliation au tribunal, donc là, il n'y avait pas de conciliation possible. Et donc ensuite, il m'emmène au tribunal, donc en première instance. Et comme il perd à chaque fois, donc il n'y a pas une étape lui échappe. Il a fait appel, il est allé en cassation. Et ça, ça s'est renouvelé quand même 3 fois sur 10 ans. Et avec les mêmes arguments. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que le tribunal repart toujours pour les mêmes choses. Mais enfin, bon, bref. Et puis la 4e fois, c'est très récent, là, puisque j'arrivais à fin de bail en 2015, fin de mon bail à long terme. Et donc, il m'a donné congé pour me virer, et avec les mêmes arguments. Et du coup, effectivement, je me suis bagarré, parce qu'il n'était pas question de m'en aller. Et donc, ça a repoussé de 2 ans. Enfin, c'est pour ça, en tout et pour tout, j'ai été pour l'équivalent de 4 affaires, l'une derrière l'autre, pour les mêmes raisons, au tribunal. Donc, ça a duré 11 années. Et il ne m'a épargné aucune étape. Hein. C'était la première instance, et il a fait appel à chaque fois, et en cassation, il y allait à chaque fois. Donc, et puis, entre-temps, je veux dire, tout au long des procédures, ça a été... des constats d'huissier auxquels il faut répondre par un constat d'huissier parce que notre parole ne vaut rien. Ça a été des expertises auxquelles il faut répondre à des expertises parce que également notre parole ne vaut rien. Donc c'est absolument sans arrêt. Ça m'a coûté cher parce que ce pognon-là, je pouvais ou le mettre dans des bâtiments puisque c'est ce que je fais au fur et à mesure pour améliorer mes conditions de travail et puis en même temps, indirectement, ça améliorait mon revenu. Donc ça, c'est sûr que je ne l'ai pas eu pour faire ça. Hein. Il fallait quand même que je me défende parce qu'il n'était pas question que je m'en aille d'ici. Et donc, bien sûr que ça, c'est un truc qui m'a coûté très cher. Hein. En plus du temps perdu, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps à se bagarrer. Hein. C'est quand même assez infernal. Hein. Je ne suis pas du genre à lâcher, parce que c'est quand même pas possible, mais ça coûte cher quand même, hein. en temps perdu, en tracasserie. C'est pas des situations que je souhaite aux copains, ça. En totalité, c'est un truc qui a coûté 25 000 euros, ça, sur 11 ans.
Et c'est quelle proportion de votre revenu, à peu près, qui partait comme ça, à chaque fois
Ah ben moi, j'ai un revenu annuel en moyenne, là, depuis, et je dirais même mes meilleures années, depuis 7, 8, 9 ans, là, c'est 12 000 euros par an. Donc, non, ça tient chaud, hein. Ça tient chaud. Mais c'était le but, enfin, c'était le but de mon propriétaire, parce que mine de rien, il y a... c'est là qu'on s'aperçoit, je le savais avant, mais si financièrement on n'arrive pas à surmonter, c'est l'asphyxie. Tout en ayant raison, on peut abandonner parce qu'on ne peut plus. Hein. Et ça, c'était le but de mon propriétaire, il hein, n'y a aucun doute hein, là-dessus. Il y a des paysans qui baissent les bras. Moi, j'ai déjà discuté avec un paysan pas très loin d'ici qui m'a dit bah, de toute façon, on peut rien contre ces gens-là. Oui, il y en a. Et puis après, c'est vrai que. J'avoue que c'est des choses que je ne supporterai pas, mais il y a des gens qui trouvent presque ça normal. Hein. Donc,
c'est-à-dire ils restent sur leur ferme, mais c'est une partie qui va partir à la chasse
ou alors ils laissent un peu de terre pour la chasse, ou ils laissent le propriétaire traîner là où il veut, dans les terres, il se fait ses chemins. Enfin, il y a des gens, des propriétaires qui ont un culot phénoménal quand même. Hein. Et puis bah, des locataires qui ne se sentent pas de taille à affronter le propriétaire. Hein. Et donc qui acceptent pratiquement tout. Hein. Quand on sait ce que vivaient les générations d'avant le statut du fermage, on a quand même des aînés qui ont gagné un truc important, faut quand même s'en servir, c'est pas possible. Puis quand on réfléchit, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au Brésil ou dans d'autres pays où les paysans sont flingués quand ils gênent, nous on a quand même un minimum de droits, je pense que là il faut pas hésiter, hein, c'est pas possible de les laisser faire. Donc, la propriété privée, ça fait pas partie des trucs que j'aime beaucoup, hein, parce que c'est quand même une catastrophe pour le monde paysan, donc il n'était pas question de caler par rapport à ça. Non, ça c'est pas possible.
D'accord, est-ce que c'est un rapport avec votre histoire familiale aussi? Vous parlez de votre arrière-grand-père.
Oui, parce que lui, il a vécu, il a été paysan les trois quarts de sa carrière avant le statut du fermage. Donc effectivement, les souvenirs que ma mère raconte, il a été l'avant-dernière étape, il était à Dampierre-en-Burlie. À l'époque, c'était le comte de Ganay, mais c'est toujours la même descendance. Et puis je crois que ça vaut toujours aussi cher, mais bon. Et il y avait à l'époque, parce que là maintenant chez nous, le fléau, c'est les cervidés et sangliers. Mais à l'époque, c'était les lapins de Garenne, et où les paysans, enfin dans les zones où il y avait beaucoup de lapins, c'était la ruine. Et mon arrière-grand-père à l'époque, il était au tribunal de simple police, c'est ce qu'ils appelaient, toutes les semaines, lié à des problèmes de dégâts de lapins avec son propriétaire. Et puis la situation s'envenimait, ça ne pouvait pas être autrement. Et le comte de Ganay, parce que alors, j'imagine l'état d'esprit de ces gens-là à cette époque-là, puisque là on est 70-80 ans en arrière. Heureusement, ça a évolué un petit peu, encore qu'il y en a qui se comportent toujours de la même manière. Mais, et qui avait dit à mon arrière-grand-père, qui lui avait dit qu'il avait qu'à s'écraser. Et mon arrière-grand-père qui avait dit, monsieur le comte, vous êtes un vieux con. Et l'autre, il avait dit, je m'en rappellerai. Et donc, à fin de bail, il s'est fait virer. Parce que, c'en était là, avant ce statut-là, c'était quand même, on se faisait virer pour rien, on n'allait pas à la messe, on se faisait virer, c'était comme ça le climat, où on ne disait pas bonjour aux propriétaires, et puis bonjour d'une certaine façon, parce qu'il faut quand même s'intéresser à l'histoire des syndicalistes paysans de l'époque, on se faisait virer hein, quand on affrontait ces gens-là. Que là c'est terminé quand même. Et donc, c'est quand même pas fait pour les chiens, le statut du fermage. Donc, c'est pour ça que c'était hors de question que je cale, hein, même si j'y ai passé de mauvais moments. Mais là, c'était hors de question.
Alors que le grand gibier prolifère, l'agriculteur est devenu une espèce rare en Sologne. Chaque année, la surface agricole cultivée diminue à mesure que le prix des terres augmente. Alors que la qualité du sol est beaucoup moins bonne, l'hectare de terrain est devenu aussi cher qu'en Beauce. Progressivement, les cultures sont transformées en terrains de loisirs réservés à la chasse, la forêt gagne du terrain et les espaces se ferment.
Il y a maintenant tellement peu d'agriculteurs que finalement le conflit agriculture-chasse n'est plus un conflit qui est si vif que ça finalement, faute de combattants d'un côté. Les conflits seraient plutôt immobilier par rapport à l'utilisation de l'espace, et ça serait plutôt des conflits entre des formes de tourisme ou d'écotourisme ou de loisirs et l'activité chasse. Il y a un très dense réseau de chemins pour faire du VTT, pour se promener en Sologne, qui est assez formidable. Et quand une chasse un mercredi après-midi fait qu'on va faire du vélo, qu'on se promène avec ses enfants, avec derrière deux rangées de chasseurs qui sont en train de tirer, on a un peu l'impression d'être exclus du territoire, quoi. Voilà, donc il peut y avoir des conflits comme ça. Il y a un conflit qui est quand même assez fort, hein, qui est autour de l'engrillagement. Il y a des secteurs en Sologne de l'Est ou bien vers Duison, dans lequel Duison, Yvoil-Marron, ce secteur-là, donc dans le Loir-et-Cher, dans lequel on peut faire des kilomètres en ayant de part et d'autre, hein, des grillages de plus de 2 mètres de haut. Hein, ce qui fait que bon. Voilà, il y a une appropriation de la nature qui est telle, enfin une confiscation qui devient parfois difficile pour les usagers de la nature, que ce soit des villageois ou que ce soit des urbains proches, hein, qui veulent une journée durant faire du vélo ou se balader en Sologne.
Ce genre de conflit est le résultat de l'évolution sociologique des villages de Sologne. Autrefois, les grands propriétaires imposaient leur volonté à des populations en situation de dépendance. Ils sont maintenant confrontés à des néo-ruraux qui ne chassent pas et qui veulent profiter de la forêt autrement.
L'idée, c'est de remettre un peu en état un certain nombre de chemins, c'est de les entretenir, en tout cas de les baliser pour que les randonneurs, qui sont de plus en plus nombreux, puissent en profiter.
Il n'y a pas de champignons cette année. Hein. On est trop sec.
Éviter l'arrivée des promeneurs et de touristes dans la forêt, c'est le souci principal des propriétaires de grands domaines de chasse. À Salbris, par exemple, l'industriel et député UMP Olivier Dassault utilise les services d'un grand cabinet d'avocats parisiens pour bloquer ou retarder la construction d'un village de bungalows pour touristes situé à côté de ces chasses.
Je crois, lui, qu'il y a une prise de conscience, hein, que les espaces communaux, qui sont quand même de grands espaces, ne peuvent pas être uniquement boisés et uniquement pour l'essentiel confisqués par quelques grands propriétaires. Hein, je ressens aujourd'hui, enfin je pourrais multiplier les exemples, beaucoup de communes qui mettent en place des sentiers VTT, des politiques de chemin, des équipements un peu écotouristiques. Pendant très longtemps, les grands propriétaires rachetaient les chemins communaux, donc qui appartenaient à la commune, quand ils traversaient les propriétés. Il y a d'ailleurs une association à Nouvelle-Fuselier, hein, qui se bat sur toute la Sologne, hein, pour maintenir ce réseau de chemins ruraux. Et aujourd'hui, les maires sont beaucoup moins enclins à vendre, hein, une partie d'un bien collectif, hein, aux grands propriétaires. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience, hein, qui a peut-être aussi été accélérée avec la création des pays, avec la création des communautés de communes. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, ben, le maire était plus seul face à emprise avec un grand propriétaire qui était un petit peu omnipotent. Alors là, il y a une prise de conscience quand même de l'intérêt paysager, de la nécessité d'ouvrir les communes vers la nature, vers d'autres activités que la chasse.
C'est la fin de cette émission de Feuilles Vives avec aujourd'hui un sujet sur la déprise agricole en Sologne. L'avancée de la forêt, la prolifération du grand gibier, le primat de la chasse et la puissance de la propriété privée sont des phénomènes intimement liés qui s'entretiennent entre eux et qui participent plus ou moins directement au recul de l'agriculture, à la fermeture des paysages et à la faible attractivité économique et touristique de ce territoire. Cette marginalisation n'a donc rien à voir avec l'immigration, l'insécurité ou le communautarisme, les thèmes fétiches de partis d'extrême droite qui ont pourtant une audience croissante auprès de l'électorat solognaud. Prompt à défendre une identité soloniote qui tourne autour de la forêt et de la chasse au grand gibier, les défenseurs de la Sologne cinégétique oublient que leurs paysages et leurs cibles chéries sont apparus très récemment et qu'ils contribuent en réalité à marginaliser ce territoire. rendez-vous dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Vous y retrouverez ce reportage en podcast et plein d'infos complémentaires sur l'évolution de l'activité économique en Sologne. Bon week-end et à bientôt.
Quelle belle vallée, avec ses fermes et ses fermiers.